Salut, c'est Dali. Bienvenue dans ce petit podcast un peu improvisé. J'avais de base prévu de faire une FAQ sur YouTube, mais en vrai, je vais pas te mentir, j'ai carrément la flemme de faire du montage et je sais pas, d'allumer la caméra et tout. Du coup, je me suis dit, vas-y, je peux très bien le faire en podcast. Comme ça, moi, ça me facilite le truc. Et puis, même toi, ça te t'oblige pas forcément à être devant un écran. Et c'est ça que moi, perso, j'adore avec les podcasts, c'est que, étant donné que je deviens un peu un fou de, vas-y, il faut que j'ai moins de 2 heures de temps d'écran par jour. J'évite par exemple de regarder des vidéos YouTube, mais à la place, j'écoute des podcasts. Et en vrai, c'est surtout ce que je fais en mangeant, et je me suis rendu compte que c'était mieux, même par exemple pour ma consommation de nourriture. Parce qu'il y a des études qui montrent que, en fait, quand tu regardes un écran, bah, tu as tendance à consommer plus de nourriture, et tu fais beaucoup moins attention. Alors que quand il y a un podcast, c'est un petit peu différent. Donc n'hésite pas à écouter ce petit podcast FAQ. Je sais pas, en te baladant, en mangeant, en faisant un truc un petit peu cool, en faisant une séance de sport, même si c'est un peu chelou. Enfin bref, on est parti donc pour les petites questions que vous m'avez posées sur Insta. J'ai mis un petit peu de temps à y répondre, mais là du coup c'est bon, j'ai réussi à retrouver dans les archives toutes les questions. Donc on est parti, c'est full impro, je tiens à te prévenir, c'est surtout full authentique. Il y a une première question qui me demande d'où est-ce que vient mon intérêt pour la psychologie humaine, le comportement humain, etc. En fait, moi, il y a un truc que je trouve passionnant avec le comportement humain, du coup, c'est qu'il y a un effet Lindy extrêmement important. C'est-à-dire que, en gros, l'effet Lindy, il met en évidence que l'espérance de vie d'une chose a tendance à augmenter si cette chose a passé le temps. Pour faire très simple, un livre qui existe depuis 1000 ans, il y a énormément de chances que dans les 10 prochaines années, il ait encore survécu. Pourquoi? Parce que comme il a déjà survécu aux 1000 années précédentes, il a réussi par exemple à passer, je sais pas, des crashs boursiers, des crises pétrolières, ce genre de choses, eh bien, les 10 prochaines années, il peut encore avoir des crises, il peut encore se passer plein de choses, c'est pas grave. Il a montré que il était encore d'actualité, c'était encore pertinent ce qui était écrit dedans. Donc bah ça va continuer à fonctionner comme ça en fait. Et c'est un super bon indicateur pour savoir toi au quotidien vers quelle chose tu peux orienter tes choix. Par exemple, si on prend la mode et le costard-cravate. Et bah, on se rend compte que c'est un truc qui existe depuis longtemps. Alors que les jeans troués, bah, il y a de fortes chances que dans 10 ans, ça n'existe plus, tu vois. Et pareil, quand tu choisis un livre, tu peux potentiellement prendre un bouquin qui existe depuis longtemps. Par exemple, Sun Tzu, L'Art de la guerre, bah, ça a été écrit il y a pas mal d'années. Et dans 10, 20, 30, 40 ans, ça sera encore d'actualité et encore pertinent ce qu'il dit. Alors qu'un bouquin qui est sorti il y a 2-3 ans, bah, il y a de fortes chances que le temps, en fait, tout seul va évincer ce bouquin et fera en sorte que ça sera plus à la mode. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le cerveau humain, il a un effet Lindy extrêmement important. C'est-à-dire que il évolue doucement, mais sûrement, mais c'est surtout que bah, il évolue très peu en fait. Il y a 1000 ans, les biais cognitifs étaient quasiment les mêmes qu'aujourd'hui. Et moi, c'est ça que je trouve passionnant, c'est que tu étudies quelque chose qui est valable en fait et qui sera valable quasiment toute ta vie. Une fois que tu as compris certains mécanismes, certaines manières de fonctionner du cerveau, et c'est une connaissance que tu pourras appliquer et que tu pourras conserver pour le reste de ta life. Et ça, c'est juste énorme. Et puis même, en fait, je sais pas, moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que je raisonne. Et bon, il y a aussi ma mère est psy. Donc forcément, ça impacte un petit peu les choix d'études. Donc voilà, même si je suis pas étudiant en psychologie. D'ailleurs, pour ceux qui. Prochaine question, même si elle n'est pas dans la FAQ, on me demande souvent, tu fais quoi comme étude? Eh bien, écoutez, pour votre information, je fais actuellement des études de naturopathie avec le CNH qui a ouvert cette année, le Centre de naturopathie et d'Hormèse, qui est dirigé par et créé par Pierre Dufraisse, qui est naturopathe, préparateur physique et tout. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Vérisme TV. Et je vous invite vraiment à aller checker, c'est extrêmement intéressant. C'est un gars qui fait preuve d'une grande sagesse. Et franchement, je le considère un petit peu comme un mentor. Et c'est très très cool. Je suis très content d'avoir choisi de partir dans cette direction, puisque j'estime que c'est assez sain pour moi et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, en vrai, c'est un métier avec lequel je suis vachement aligné par rapport à mes valeurs et tout. Et je trouve que ça fait sens pour moi. Et puis, il me fallait aussi un cadre au-delà de créer des vidéos. J'avais besoin d'un truc en mode, bon, bah, voilà, tu sais que tous les jours, il faut que tu fasses à peu près 1 heure et demie d'études et que tu suives les cours, etc. Comme ça a tendance un peu à rythmer mes journées. Et ça fait rentrer aussi en compte la loi de Parkinson qui dit clairement que bah, si tu as toute la journée pour faire ta vidéo, tu prendras toute ta journée. Alors que là, si tu te rajoutes un petit peu d'études, un petit peu de cours, bah, j'ai moins de temps, mais c'est bénéfique. Ok, prochaine question. Est-ce que ça. Bon, elle est pas super intéressante celle-là. Pourquoi avoir quitté la Bretagne pour le sud? En fait, ma mère, elle voulait déménager. De base, on hésitait entre trois villes, qui étaient Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Et bon, moi, clairement, j'ai direct dit Montpellier, parce que je trouvais cette ville beaucoup mieux comparée à Toulouse et Bordeaux, pour plusieurs raisons. La première, c'est la mer. Qui est plus proche. Bordeaux, c'est quand même 1 heure. Toulouse, il t'en faut au moins deux. Alors que là, Montpellier, il suffit de ouais, 15 minutes de voiture ou on va dire 40 minutes de tram et t'es déjà à la mer. Donc ça, c'est génial. Et puis, c'est mine de rien la ville la plus petite et la plus à taille humaine. Et ça, je trouve que c'est agréable. J'aime bien aller sur Paris de temps en temps, mais très vite, tu sens que c'est un petit peu fatigant. Donc voilà, on est allé visiter les villes et au final, on a tranché. Il y avait aussi mon petit frère qui a partagé son choix et on s'est tous les trois mis d'accord sur Montpellier. Donc c'était cool en fait. C'était un choix qui s'est un peu fait en famille. On a fait le déménagement ensemble et tout, l'emménagement. Donc voilà, c'était. Moi en fait, j'ai suivi ma mère, même si aujourd'hui je suis quasiment full indépendant, puisqu'en fait le logement est divisé en deux parties où j'ai bah, cuisine, salle de bain et tout. Mais bon, j'ai quand même l'avantage qu'il soit juste en haut. Et c'est d'ailleurs super cool en fait de commencer son indépendance comme ça, puisque ça te permet de. C'est pas trop brutal, on va dire. S'il manque du papier toilette, bah, je peux aller en haut vite fait en piqué sans que ce soit la galère. Et ça, c'est très très chouette. Ok, alors je regarde quelle autre question j'ai. Est-ce que j'ai un livre à conseiller sur la psychologie? Bah forcément le premier que je pourrais donner c'est Influence et Manipulation, mais bon c'est un petit peu classique quand même. J'ai beaucoup aimé Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. En vrai, pour un chercheur, j'ai trouvé que le livre n'était pas non plus trop complexe, même si des fois c'était un peu relou. Ouais franchement Système 1, Système 2, c'est cool. Je regarde à côté de moi, j'ai une petite bibliothèque, mais elle est minuscule parce que maintenant je lis un peu tous mes bouquins sur Kindle. Ouais, c'est les deux recos que je peux te faire, mais elles sont pas très originales, j'avoue. J'aurais pu faire mieux. Ok, on va continuer à checker si on a d'autres questions intéressantes. Tu pratiques quoi comme sport dans ta vie? T'as l'air slim mais bien sculpté. Merci Brayou A971. Ah, mais je le connais, je crois. C'est un pote à moi un ancien pote à moi de Bretagne, que j'ai plus trop de contact, mais c'est pas grave. Je fais de la muscu, mais après, moi, je fais pas vraiment de la muscu comme tout le monde, j'ai l'impression. C'est-à-dire que je fais quasiment aucun exercice d'isolation et je fais le plus d'exercices polyarticulaires et le plus d'exercices pratiques, en fait, dans la vie de tous les jours quand je fais du sport. Par exemple, aujourd'hui, c'était une séance jambes que j'ai faite. Bon, bah voilà, j'ai fait du squat. J'ai fait squat sauté avec des poids. J'avais 10 kilos et plus la barre, je sais pas, ça faisait combien. Et ensuite, j'ai enchaîné avec des fentes sautées. Voilà, c'est les trois exo-jambes que j'ai fait. Les trois sont polyarticulaires et un peu aussi cardio, tu vois, surtout quand tu les enchaînes. Enfin, le squat, je le faisais solo, mais j'enchaînais fentes sautées et squat sauté. Et voilà, j'ai juste bossé mes jambes comme ça aujourd'hui. Après, j'ai fait un petit peu d'abdos, un peu de gainage et tout, et puis ça s'arrêtait là. Mais ouais, je vais dire que je fais de la muscu et surtout des exocalisthénies, parce que en fait, quand je fais de la muscu, je fais quasiment tout le temps les mêmes exos, c'est-à-dire squat, soulevé de terre, traction, développé haltère, gainage, ce genre de choses. Parce que en fait, moi, mon objectif avec le sport, il est simple, c'est juste d'être le plus fonctionnel possible, d'être le plus athlétique. Donc j'ai envie d'avoir en fait d'être très complet, de pouvoir, je sais pas, faire une quinzaine de tractions, d'être capable de courir 20 à 30 km sans problème, tout ce genre, d'être capable de faire un étirement, de toucher mes pieds. Enfin, j'ai envie d'avoir une multitude de capacités sportives pour que mon quotidien en fait en soit meilleur, tout simplement. Du coup, j'aime beaucoup aussi pratiquer les étirements, c'est ce que je fais quasiment tous les soirs. Et là, pareil, pour les étirements, je m'étire pas les pecs, par exemple. Je fais surtout des étirements fonctionnels et puis on va même dire que c'est plus des exos de mobilité. Et ça, vraiment, ça me fait triper, quoi. Je me régale. Et en plus de ça, c'est que quand je fais une session un peu d'étirement, je le vois un petit peu aussi comme une méditation, puisque en général, ça me relaxe vachement. Et comme c'est avant de dormir, je le fais en fermant les yeux et je fais en sorte d'être dans une pièce la moins lumineuse possible. Donc vraiment, c'est un kiff. Il y a mon chat qui veut sortir, je l'ai entendu. Mais bon, pour l'instant, il va attendre encore un petit peu. Est-ce que tu as fumé dans le temps? Et si oui, comment est-ce que tu as arrêté? Ouais, il y a beaucoup de questions, hein. Je pense que je vais en faire une dizaine, pas plus. On va faire en sorte que l'épisode, on est à combien là? On est à 10 minutes. On va faire en sorte qu'il dure, allez, 20, 25 minutes. Mais petit aparté, c'est quand même cool aussi d'être capable d'écouter un podcast qui est un peu plus lent, qui est forcément moins stimulant qu'une vidéo, encore moins qu'un TikTok. Parce que aujourd'hui, étant donné qu'on vit dans un monde où on est surstimulé en permanence, être capable de trouver de l'intérêt simplement dans un podcast ou dans un livre, c'est une force extrêmement importante et c'est une capacité d'attention et de concentration qui est extrêmement précieuse. Et en fait, ça rejoint un peu le concept plutôt connu de détox de dopamine. Bah, tu peux faire une sorte de détox de dopamine en remplaçant les vidéos par des podcasts. C'est une bonne idée. Mais du coup, comment est-ce que ouais, j'ai fumé dans le temps et comment est-ce que j'ai arrêté? En fait, j'ai fumé à peu près de mes 16 à mes 18 ans quand je suis arrivé en seconde. Voilà, il y avait le coin fumeur et tout. Je pense que ça a été aussi un moyen pour moi de me faire accepter. Et puis, en fait, je crois qu'à ce moment-là, j'avais une personnalité qui matchait beaucoup plus avec les gens qui fumaient, sans l'être même au départ. Mais du coup, petit à petit, comme tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, bah, je les ai fréquentées, je les ai fréquentées et j'ai commencé à fumer. Après, loin de moi l'idée de dire que c'est à cause d'eux que j'ai commencé à fumer. Pas du tout, pas du tout. Mais forcément, ça m'a un petit peu influencé. Et comment est-ce que j'ai arrêté? J'ai beaucoup été aidé par le confinement, puisque, bah, en fait, qui dit confinement disait plus de soirées, et moi c'était vraiment les soirées où je fumais tout le temps. En fait, durant cette période de 2 ans, il y a plein de fois où j'ai essayé d'arrêter, mais sans grand succès. Et là où où j'ai enfin réussi à arrêter, c'est grâce au confinement. En fait, je crois que ma dernière cigarette, c'était vraiment le dernier jour avant que le confinement commence. Et c'était un moment où j'avais encore craqué, genre j'étais en soirée, j'avais dit non, je fume pas. Et puis finalement, allez, je m'étais dit, bah, comme d'hab, tu craques quoi, parce que résister à la tentation, c'est pas toujours évident. Mais vraiment, le truc qui m'a le plus aidé, c'est ton environnement, en fait. Et après, quand le confinement a été fermé, bah, j'avais changé tellement de choses en moi. J'avais découvert le dev perso, j'avais pris des nouvelles habitudes de vie, j'avais aussi arrêté de boire de l'alcool. En fait, je sortais même plus en soirée. J'avais quasiment changé de pote et tout. Enfin, ça allait très très vite. J'ai fait un virage à 90 degrés. Et ça m'a vraiment permis d'arrêter sans trop de difficultés. Mais en fait, en général, je me rendais compte, il y a un schéma d'habitude qu'on retrouve souvent chez les fumeurs qui est, pour faire simple, en gros, une habitude, c'est 4 signaux différents avec le signal qui provoque une envie avec laquelle tu as donc la routine et ensuite tu as une récompense. Et du coup, le signal qui revient souvent, c'est l'alcool en fait. Quand tu bois de l'alcool, en général, un fumeur, ça lui provoque l'envie d'allumer une cigarette. Et du coup, comme j'ai supprimé ce signal, bah, j'avais de moins en moins envie de fumer. Et puis en fait, même dans ma famille, il n'y avait pas non plus pas d'envie qui se créait parce que personne ne fumait. Donc voilà comment est-ce que j'ai arrêté. Alors, quel est mon prochain gros projet? J'en ai pas. En vrai, j'en ai. Ah, quoique, si, j'en ai un petit, mais c'est pas un énorme projet. Mais en fait, si vous voulez, moi je procède en. J'aime bien m'organiser en plan de 90 jours. C'est-à-dire que tous les 90 jours, je fais un petit point, je fais une petite journée même d'introspection où je suis en mode, ok, qu'est-ce que j'ai fait les 90 derniers jours qui étaient bien, qui n'étaient pas bien, sur quoi est-ce que j'ai envie de bosser les 90 prochains jours et tout. Et là, dans mon plan de 90 jours que j'ai commencé récemment, le 26 septembre, qui va aller du coup jusqu'à la fin de l'année, j'ai décidé que j'avais vraiment envie de passer un step concernant mon niveau d'anglais. Et du coup, je vais passer le TOEIC pour. En vrai, je m'en fous du diplôme, mais c'est juste pour qu'il y ait une échéance et une capacité de mesurer un peu mon résultat. Parce que c'est facile de dire je vais être bilingue en 3 mois. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire être bilingue? Alors que là, je me suis fixé un peu un objectif mesurable. Du coup, passer le TOEIC et avoir plus de 900 points, c'est un de mes objectifs, c'est un de mes projets sur ce nouveau plan de 90 jours qui comporte 4 projets. Mais du coup, ouais, ça, c'est un gros moyen projet actuellement. Et pour ça, je compte partir 1 mois dans un pays anglophone. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais aller. J'avoue que Bali, ça me tente bien. Puis surtout qu'aujourd'hui, bah, je peux travailler de partout quasiment. Alors, je me considère comme étant indépendant, mais c'est pas encore validé. Puisque si j'arrête de produire des vidéos, en fait, j'arrête de gagner de l'argent. Et ça, c'est encore dommage. Donc, j'y travaille. Je suis en pleine réflexion actuellement pour savoir comment est-ce que je peux faire pour décorréler le temps que je passe à l'argent que je gagne. Je pense que c'est important et de toute façon, c'est bien connu. Hein. Si tu veux gagner un max d'argent, tu peux augmenter tes heures, oui, mais au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Ok. Il y a vraiment des questions qui sont nulles, quoi. Genre, tu choses du combien? Tu fais quelle taille? Est-ce que tu es abonné à Mazdaq? Je ne répondrai pas à ces questions. Pourquoi tu as choisi le mentalisme? Parce que je n'ai pas choisi le mentalisme. Ok. Ouais, il y a Matt, il a posé des questions assez cool. Matt.btr. L, merci pour tes questions, mec. T'as posé 4 questions. Je vais choisir celle qui me plaît le plus. Ok, 3 skills que tu recommandes d'acquérir le plus vite possible. Ok, bah le premier, ça me paraît très très logique et le parallèle est assez facile, c'est l'anglais. En vrai, si tu parles anglais, c'est très très puissant, quoi. En fait, moi, c'est surtout au niveau de consommation et de création de contenu, je me rends compte qu'il y a plein d'études, par exemple, notamment dans le domaine de la psychologie, où les avancées les plus ouf se réalisent aux États-Unis. Et du coup, si tu veux un peu fouiller, lire les trucs avant d'attendre qu'un mec français en parle dans un bouquin, machin, bah c'est long, quoi, et tu vas commencer à être en retard. Donc, rien que pour ça, c'est trop important d'être capable de comprendre surtout l'anglais dans un premier temps. Et ensuite, le parler aussi, c'est ouf. Donc, ça, pour moi, vraiment, c'est le premier skill que je recommande d'acquérir le plus vite possible. Et pour le coup, j'en suis pas encore totalement. J'ai pas encore validé totalement ce skills, mais je suis en train. Ensuite, le deuxième skill. Deuxième skill, je pense. C'est la capacité à créer du contenu sur Internet. En fait, la capacité tout simplement à créer sur Internet, puisque il y a un effet de levier qui est tellement important. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que tout passe par ça. Et puis, il y a même En fait, je pourrais même limiter ce skill à créer des vidéos impactantes, percutantes, qui retiennent l'attention. En fait, le skill en lui-même, il est beaucoup plus large, c'est de captiver l'attention. Mais comme aujourd'hui on se rend compte que ça se fait beaucoup à travers les vidéos, je dirais qu'un skill vraiment important, c'est d'être capable d'avoir des bases en termes de vidéaste, de montage vidéo, et un petit peu de psychologie humaine, du coup, qui te permettent de comprendre comment est-ce que ça marche l'attention, et comment est-ce que tu peux captiver l'attention des gens. Et pour ça, il y a un livre qui est excellent, qui s'appelle Hooked, qui est un fameux livre jaune, qui vous apprend juste tellement de trucs. Et d'ailleurs, je bougeais pas parce que je l'ai dans mon Obsidian. Pour ceux qui ne savent pas, Obsidian, en gros, c'est mon second cerveau où je prends un max de notes. Et il y a en gros tout ce qui était vraiment important pour moi dans ce bouquin. Et là, il y a un truc un peu marrant. Il y a une étude de 2011 qui montre que. Qui suggère que les gens consultent leur téléphone 34 fois par jour. Dites-vous, ça, c'était en 2011. Aujourd'hui, on estime que ce chiffre est plus aux alentours de 150. C'est ouf en vrai! Ça serait marrant de compter un petit peu combien de fois est-ce que j'ouvre mon téléphone en une journée. Je pense que ça doit être flippant. Parce que malgré mes 2 heures, 2 heures et demie de temps d'écran par jour, ah, je pense que je l'ouvre quand même beaucoup de fois pour rien. Vraiment, c'est un réflexe qui est trop nul, quoi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et voilà. Donc ça, c'est le deuxième skill. Et le dernier skill. Quels skills est le plus important? Je pense que être capable de prendre soin de soi, c'est le truc selon moi le plus important. Donc avoir des bases en termes de sommeil. Je vous recommande Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. C'est juste. En vrai, c'est un must. Il est super simple à lire. Il est cool. Franchement, foncez sur ce bouquin. Il est génial. Ensuite, en termes aussi un petit peu d'alimentation. Même si. En fait, je trouve que l'alimentation, on a très vite complexifié ce sujet, qui est mine de rien assez récent en fait, et sur lesquels on n'a pas tant de recul que ça, surtout au niveau scientifique. Et donc, on peut. Enfin, il y a énormément de dogmes qui s'opposent dans ce domaine, mais pour autant, il y a quand même certaines généralités qui reviennent régulièrement. Et puis, en fait, le corps aussi, il est intelligent, tu vois, et si t'es un petit peu plus à l'écoute, tu vas savoir qu'est-ce qui te fait du bien quand tu le manges et qu'est-ce qui t'en fait pas. Rien qu'en termes de digestion, c'est flagrant. Sauf quand t'es jeune, tu le sens pas trop, mais voilà. Et évidemment, bah, le sport, quoi. Et avoir des petites bases en musculation, savoir comment est-ce que ça fonctionne, la prise de masse musculaire. Savoir que, par exemple, au bout de. C'est seulement à partir de 20 minutes d'un exercice cardiovasculaire que tu vas commencer à puiser dans les graisses. Ce genre de truc, c'est toujours intéressant. Et pour ça, il y a un TEDx que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Que je vous recommande de fou. Ça fait beaucoup de recommandations, je sais. Mais voilà. Ok, je sais pas, je suis à combien de temps? On est déjà à 21 minutes. C'est ouf parce que là, je parle solo, même si en vrai, je vous parle. Le temps passe très très vite et c'est stylé. Je me régale. La vie de ma mère, je kiffe faire des podcasts. Ah, c'est trop galerie. Ok, putain, en tout cas, c'est charmé. Vous avez été beaucoup à me poser des questions. D'ailleurs, sur Insta, là, c'est fort en ce moment. Là, je gagne beaucoup d'abonnés. Donc, c'est cool. Donc, c'est très, très cool. Mais bon, c'est des abonnés qui ne me connaissent pas. D'où l'intérêt de faire des podcasts. Ok. Je vais prendre une dernière question. Allez. Donc là, il ne faut pas que je tombe dans un truc de maximiseur. Pour ceux qui ont la ref de Paradox of Choice, il faut juste que je prenne la. Dès que je vois une question qui me parle, let's go, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. La question, elle vient de Tom et il me demande pourquoi j'ai remis Insta et TikTok. Pour ceux qui ne savent pas, à un moment, j'avais pris la décision de me consacrer uniquement sur YouTube, d'arrêter de produire des vidéos courtes, d'arrêter d'aller sur tous les réseaux sociaux, excepté YouTube. Et finalement, j'ai décidé de faire machine arrière pour plusieurs raisons. La première, c'est juste que, en tant que créateur, il y a une opportunité avec les vidéos courtes qui est juste tellement énorme que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Enfin, franchement, si je m'en privais, c'était juste trop bête. Et l'opportunité, alors, ne bougez pas, bougez pas.
Je fais un podcast, bon. Bouge. Je laisse les colis, j'irai les amener après les colis.
Bon, c'est du live. Hein. Ouais, je vais y aller, t'inquiète. Parce qu'avec mon petit frère, on gère un business de pantalon, il faut envoyer les colis constamment. Donc là, voilà. C'est un peu le boss. C'est le patron, il arrive et me dit, tiens, t'envoies ces deux colis. Du coup, là, j'ai des colis à l'envoyer. Je finis le podcast et je file. Et du coup, je disais que les vidéos courtes, c'est une opportunité, mais tellement, tellement énorme que bah, c'est trop bête de t'en passer. Même si, dans le fond, je trouvais que ma démarche, elle était intéressante, puisque oui, je ne consomme pas de contenu court, ça me permettrait d'avoir un contenu un peu plus qualitatif, etc. Mais d'un autre côté, on peut aussi rétorquer que si tu veux changer le moule, si tu veux déformer le moule, enfin, là, le meilleur moyen, c'est de rentrer dedans, tu vois. Donc, certes, je contribue à ces vidéos courtes et à tout cet écosystème qui est pas très sain. Mais j'essaye quand même à ma manière d'apporter quelque chose de nouveau, même si c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, au niveau du lien social, bah, la plupart des interactions que j'ai aujourd'hui, elles sont sur Instagram. Enfin, j'en ai aussi en réel, bien sûr, mais sur Internet, quand je parle avec des gens, c'est surtout sur Insta, quoi. Et j'ai rencontré pas mal de gens grâce à Insta. Et ça, bah, je peux pas lui enlever. Et si j'avais pas Instagram aujourd'hui, ça se passerait peut-être pas de la même manière. Et puis la dernière chose, c'est en termes de résultats. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a très vite tendance à ajuster ses stratégies. Et je pense que ça m'a beaucoup réussi, ça. Puisque, à mes tout départs, il y a 2 ans, j'ai fait 6 mois de vidéos YouTube avec très peu de résultats. J'étais monté à 2000 abonnés à peu près. Et donc, je me suis dit, en fait, il y a une opportunité avec TikTok. Let's go la saisir, let's go essayer. Et donc, constamment, en fait, dans ma création de contenu, quand je vois que les résultats sont plus faibles, différents, et que je pense pouvoir faire quelque chose, bah j'ai tendance à changer un petit peu mon approche. Je suis un petit peu en mode pratique délibérée, quoi. Du coup, bah, après avoir fait 4 vidéos YouTube longues, je me suis dit, ok, je vais reprendre les vidéos courtes. Et puis, il y avait un truc aussi, c'est que ça me manquait, mine de rien. Parce qu'il y avait souvent des infos que j'avais dans des bouquins. Et je me disais, ah, c'est dommage ça, parce que ça ne peut pas faire une vidéo YouTube complète, mais par contre, c'est parfait pour un TikTok, quoi. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qu'en fait que j'ai repris, et aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Mais pour autant, il y a un truc que je trouve un petit peu dommage avec les vidéos courtes, c'est que c'est difficile de créer de l'attachement pour l'auditeur, je pense. Par exemple, pour ma part, tous les gens qui m'inspirent le plus, c'est pas des créateurs de contenu aux vidéos courtes, c'est plutôt des youtubeurs ou des écrivains. Parce que il y a un travail de profondeur qui est un peu plus important, et voilà en fait. Et parce que aussi, je les connais plus, mine de rien, parce que en fait, dans mes vidéos courtes, on en apprend très peu pour moi, très peu sur moi. Alors que là, ça permet, le podcast par exemple, de donner un petit peu plus d'infos, parce que bah mine de rien, juste tu vois les stories de quelqu'un sur Instagram et tout, ça représente qu'une infime partie de sa life. Et le fait déjà de s'exprimer et tout ça, ça permet de rentrer un peu plus dans mon intimité. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Du coup, à l'avenir, j'essaye de trouver comment est-ce que je peux mixer. En fait, ça, c'est une notion d'un économiste qui dit qu'en gros, il y a ce qu'on appelle le flow. Donc, c'est le contenu continu qui a tendance à disparaître avec le temps, et les stocks. Ça, c'est au contraire un contenu en général qui est un peu plus important, mais qui, dans le temps, va peut-être faire moins de vues, mais va continuer petit à petit à faire des vues. Et même dans le temps, ça existera encore et ça sera encore regardé. On peut faire le parallèle assez simple avec TikTok et YouTube, une vidéo longue YouTube. TikTok, voilà, tu regardes la vidéo, au bout d'une semaine, tout le monde l'a oublié. Alors que YouTube, si c'est une vidéo, surtout dans une thématique précise, surtout une vidéo de recherche, bah, toutes les semaines, elle fera quelques vues, quelques vues, quelques vues, quelques vues. Et donc, là, aujourd'hui, je suis en surproduction de flow, mais pas vraiment de stock. Et ça devient un petit peu problématique, à mon avis, puisque ce même économiste, je me souviens plus de son nom, mais vous voyez, c'est là la magie d'Obsidian, c'est que je vais le retrouver très, très rapidement. Et comme ça, vous aurez l'info. Stock and flow. Très très rapidement, très très rapidement. C'est Robin Sloane. Et du coup, lui, il disait que la formule magique, c'est de créer du contenu flow pendant qu'on travaille sur nos stocks, en fait. Et moi, actuellement, je fais que du flow, quasiment. Et c'est pas super, parce que j'ai pas envie de, en tant que créateur, d'avoir que ça, en fait. Et même, je pense que pour un épanouissement, c'est important d'avoir les deux. Voilà pour cette petite FAQ. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter. En vrai, je ne sais pas si je réitérerai, c'est dur à dire comme mot, des épisodes de podcast, mais en tout cas, moi, ça me fait kiffer. Et franchement, si vous êtes chaud, envoyez-moi un message sur Insta et je vous jure que je vous répondrai, même si en ce moment, j'ai beaucoup de messages. Si tu t'envoies dans la demande podcast en mot en premier, je te répondrai direct et n'hésite pas à me faire un feedback, c'est cool. Et surtout, si tu l'as écouté jusque-là, t'es vraiment le boss. Donc voilà, merci pour vos questions sur Insta. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.